tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos divagations carnivores dans les profondeurs de la Sharksploitation. Après une petite pause et des vacances bien méritées, nous revenons vers nos films de requins préférés. Je vous rappelle quand même brièvement le principe de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins dans la pléthore de films du genre, et nous allons les analyser en six catégories, dont nous allons voir le niveau de compétence squalo-cinématographique ou squalographique. Il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la réalisation et de la qualité des requins. En y ajoutant une appréciation personnelle, nous arriverons à un total de 20 points, qui nous permettra de les reclasser dans une des cinq catégories. Incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4 et en dessous de 4, on est dans les à fuir. Pour retrouver le détail de ce comptage, je ne saurais trop vous renvoyer à la liste Sens Critique établie par Quentin. Je ne facilite d'ailleurs pas totalement la vie à Quentin, puisque déjà, je me trompe parfois sur le total des points. C'est ainsi que, pour la dernière émission, lorsque nous avons traité du film Shark de Samuel Fuller, j'étais arrivé à un total de 8,5, mais avec les catégories à 7,5. Je me suis emmêlé sur le total des points. C'est pourquoi, pour retomber sur mes pattes, après avoir revisionné le film, j'ai fini par modifier une des caractéristiques squalographiques. Il s'agit de la qualité des requins. Je l'avais trouvée non acquise, je vais la monter à insuffisamment acquise, ce qui va rajouter un point et ce qui va nous permettre d'arriver au 8,5, donc à un film routinier tel qu'il était prévu. En effet, malgré tout, il y a quand même quelques scènes avec les requins qui sont plutôt pas mal. C'est d'ailleurs ce que j'avais initialement choisi sur mes notes et je me suis trompé lors de l'enregistrement. L'erreur est humaine, même pour moi. Autre petit souci, les films que nous avons tirés aujourd'hui vont poser problème pour l'enregistrement sur Sens Critique. Alors, pas le premier, qui est Base 3D, un film de Kimball Randall de 2012, mais le second, lui, c'est Triple X, The St. Joe's, The Porn Parody, par Stuart Canterbury, et celui-là, il n'est pas sur Sens Critique, ce qui fait que Quentin a été obligé carrément d'y ajouter l'affiche de Triple X avec Vin Diesel. Ça fait quand même un choc. Désolé pour toutes ces complications. Bon, prêt à jeter à l'eau ?
Vous savez ce que c'est d'avoir la boule au ventre ? Quand il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Comme une petite voix intérieure.
Arrête, s'il te plaît.
Écoutez-la bien. Des fois, il n'y a que ça qui vous avertira.
Non !
Va ! Recule !
Non !
Bougez pas !
Oh non.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah ! Où est-il, Josh ?
Que tout le monde sorte de l'eau.
Remontez vite !
Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi, s'il vous plaît !
Il y a un grand requin blanc de 3,60 m.
Oh merde !
Aide-nous, s'il te plaît!
Reste calme, d'accord? Plus tu cries, plus tu vas attirer le requin!
Pourquoi il arrête pas de tourner?
Je veux savoir qui on est, si on est intéressant.
Courage!
Félix!
Allez, avance!
Vite!
Je vais y arriver! C'est bon, je tiens! Fais quelque chose!
Une poignée de personnages caricaturaux se retrouvent coincés dans un supermarché après qu'un terrible tsunami ait déferlé sur la région. Malchance supplémentaire, alors que les survivants de la catastrophe se sont réfugiés en haut des rayonnages pour échapper à la montée des eaux, ils s'aperçoivent que deux énormes grands blancs profitaient de l'inondation générale pour venir faire leurs courses dans le magasin, avec une nette préférence pour les produits frais. Eh, mais c'est le scénar de Malibu Shark Attack, hein ? C'était sorti 2 ans avant, on l'avait traité dans le numéro 2 de l'émission. Un tsunami, des requins qui rôdent dans les ruines, et des persos qui tentent de sauver leur peau. Presque. Mais bon, là, il y a un petit peu plus de budget, d'ambition, et surtout plein d'effets 3D, parce que Bates de 2012 est connu chez nous sous le titre de Bait 3D, en profitant à plein de la mode du film en relief pour nous en mettre plein la vue. Et franchement, mission globalement accomplie, les gars. C'est sympa. C'est pas Citizen Kane, mais c'est plutôt une série B un peu plus friquée et intelligente que d'habitude, qui se la joue série B vitaminée pour nous offrir 1h30 de suspense, prévisible, mais assez carré. Cette production australo-singapourienne fait partie de la petite vaguelette qui a suivi le Piranha 3D d'Alexandre Aja, et qui est arrivée un petit peu à la même période que The Reef ou Dark Tide. C'est-à-dire avec la volonté de jouer avec les codes du genre, mais en essayant de garder quand même un certain niveau de qualité.
Oh, je rêve.
Il doit faire 1m50.
Qu'est-ce qu'il fait à 1m50?
80.
80? Vous parlez de quoi?
1m80 de la nageoire dorsale à la queue.
Et alors, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a un grand requin blanc de 3m60.
Et pour cela, il peut compter sur un budget assez confortable de 20 millions de dollars et du savoir-faire de Russell Mulcahy, le réalisateur de Razorback et de Highlander. Et de Highlander 2.
Et de Resident Evil 3 Extinction. Bah c'est celui où se la joue Mad Max dans le désert. Peut-être d'ailleurs le meilleur de la série, mais bon, la barre est pas très haute non plus.
Mais je m'égare, Mulcahy il a 30 ans de carrière dans la réalisation et dans la production de ce genre de série B. C'est pas lui qui réalise, c'est un certain Kimball Rundle, un solide technicien. Il a souvent été réalisateur de seconde équipe sur un tas de grosses productions comme Matrix Reloaded ou Matrix Revolution, comme iRobot, comme Overstrider, comme God of Egypt, où je commence à t'aimer toi. Mulcahy scénarise et produit le film, et il devait faire le tournage, qui avait commencé en 2010, mais suite à des retards, Mulcahy, qui était engagé sur le tournage de la série Teen Wolf, a dû céder la main tout en gardant quand même un œil sur la prod. Bref, le film est plutôt pas mal fichu, globalement généreux, il s'est ménagé ses efforts, joué intelligemment de ses requins. Bref, un film qui est loin d'être bait.
Ouais, n'y est pas, vous l'auriez fait.
Il y a une part de second degré, sans jamais trop sombrer dans le lourdingue. Des requins, des gens dans un espace clos, du sang, du suspense, un petit sourire complice face aux attendus du genre, avec des persos bien clichés, à commencer par le héros, un ancien maître nageur qui a été traumatisé quand il n'a pas pu sauver son meilleur ami d'une attaque de requins, et qui depuis ne veut plus mettre les pieds dans l'eau et s'est retrouvé manutentionnaire dans un supermarché. Où il croise par hasard son ancienne fiancée, qui était la sœur de son meilleur ami décédé, et qui revient avec son nouveau fiancé, qui s'avère en plus être un mec sympa. Ouh, le triangle amoureux. Et puis, il y a cet ado, en pleine crise existentielle, qui vient voler dans les magasins pour faire chier son père, flic évidemment, qui est obligé de venir chercher Fifi et qui tombe nez à nez sur deux braqueurs, décidés à se faire la caisse de l'établissement, quitte à prendre en otage le patron très petit chef tête à claque du magasin, sans oublier le jeune couple de petits cons superficiels, la blonde à sa chien-chien et le jeune branleur au physique de surfeur qui viennent faire crac-crac dans le parking.
J'y vois rien avec cette flotte.
S'il te plaît, commence pas.
Il faut qu'on sorte de là, on a assez poireauté.
Donne-moi tes chaussures.
T'as dit quoi, là?
Bah, j'ai besoin de quelque chose de pointu pour percer le pare-brise, donne-les-moi.
T'es dingue ou quoi? Des Gucci à 300
dollars? Elles seront trempées de toute façon, donne-moi tes chaussures.
Dans tes rêves.
Heather, donne-les-moi.
Impossible, je te donne pas mes Gucci.
C'est des fausses.
Attends, c'est toi qui me les as offertes à Noël dernier? Et tu m'as dit qu'elles t'avaient coûté 300 dollars.
Eh bien d'accord, je t'ai dit que c'était des Gucci, mais c'est des fausses.
Tu m'as offert des fausses Gucci?
T'aurais bien fini par t'en douter.
Non, je te crois pas, Kyle, tu mens. C'est des fausses.
Allez, donne-moi une de tes chaussures.
Bref, toute une petite ménagerie de clichés sur pattes, mais globalement bien utilisée. Le film ne chasse pas sur les terres des Dents de la Mer, mais davantage sur celui de Peur Bleue, quand même. Le budget est honnête, 20 millions de dollars, mais ça reste finalement assez modeste pour un film d'action un peu spectaculaire. Et ça se ressent un peu au moment des scènes d'action. Notamment le tsunami, qui est franchement moche et qui rend pas justice aux ambitions du film. Heureusement, comme le reste du métrage se concentre sur un lieu clos, ça permet de réduire les frais et de concentrer les efforts sur l'atmosphère. À mi-chemin entre l'angoisse réelle et le too much second degré. Avec en plus tout un tas de petits effets 3D pour vous foutre le choc et la surprise. Même si comme Jaws Free, il m'a manqué une vraie séance 3D pour l'apprécier à sa juste valeur. Rajoutez une musique efficace de Joe Hang et Alex O, et vous avez un bon petit film. Les requins sont bien montrés en maître des lieux, la mise en scène assure le spectacle avec efficacité. On pourrait juste regretter de ne pas voir les requins plus souvent. Il y a aussi certains tunnels de dialogue et des personnages bien stéréotypés qui font parfois retomber un peu la tension. Mais bon, on boudera pas son plaisir, hein. Quitte à faire ses courses quelque part, ça fait quand même plaisir de pas tomber sur un produit frelaté.
Non, c'est pas possible.
Toute la ville doit être engloutie à l'heure qu'il est.
Non, dites pas ça. Les secours vont bientôt venir. Et ils savent qu'on est là, ils vont venir nous chercher.
Faudrait encore qu'il y ait des survivants là-haut.
Tout ça, c'est votre faute.
J'ai rien à voir là-dedans. C'est une punition de la nature car nous avons péché.
Fermez-la plutôt que de dire des conneries.
Il nagera nulle part avec une telle blessure. Je vais rester ici. Vous pouvez comment sortir et revenez avec des secours.
Non, Josh, tu rêves.
Comment en sortirai?
Le parking est inondé. Ça nous laisse plus que la zone de déchargement et l'entrée principale.
Allez, on passe à la caisse et on scanne les qualités squalographiques de Bait 3D. Originalité. Insuffisamment acquis. Le coup du tsunami qui coince les personnages dans un espace clos avec des requins, ça a donc déjà été fait dans Malibu Shark Attack. Et heureusement d'ailleurs, il arrive un petit peu à se démarquer après. Mais ça donne quand même un petit goût de déjà vu. L'histoire est en cours d'acquisition. Kim Ben Randall s'émonne et sa barque, même si le film met un petit peu de temps à démarrer, et aligne quand même pas mal de petits clichés, comme le twist sur l'identité des braqueurs. Mais ça reste globalement très sympa à suivre. L'ambiance, là on est en cours d'acquisition, il y a un petit peu quelques tunnels de dialogue, un petit peu de démarrage un peu long, mais une fois que la tension est là, il y a vraiment de très bonnes scènes, il y a vraiment des moments d'angoisse. Les personnages, ils sont insuffisamment acquis, trop caricaturaux. Ce sont des archétypes, volontaires, même si par ailleurs il y a de bons acteurs comme John McMahon qui interprète l'un des braqueurs. Vous l'avez vu dans Nip and Tuck, il a même failli d'ailleurs être envisagé pour jouer James Bond. La réalisation est acquise. Franchement, c'est efficace, c'est bien tourné, il y a vraiment des plans qui sont très sympas. On peut dire la même chose des requins, ils sont acquis, ils sont beaux, ils sont bien mis en valeur, ce sont les maîtres des lieux. Nous voici avec un total de 12, je vais rajouter un point d'appréciation personnelle, nous sommes à 13. Voici un bon film de requins, qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui délivre le spectacle, et ça, c'est quand même pas mal. Bien joué, devant le succès du film, il y avait eu le projet d'une suite, et puis finalement, c'est un petit peu tombé à l'eau, c'est dommage, je l'aurais suivi avec plaisir. Bien, quittons l'Australie pour revenir vers les États-Unis pour nous intéresser à une version des Dents de la Mer qui va beaucoup plus loin que son illustre aîné. Il s'agit de This and Joe's The Porn Parody, la version porno des Dents de la Mer.
This shark gets a taste of this tasty chum. He comes swimming around the boat wanting more. When he does, I'll reach in my trousers, pull out my big worm, and I'll dangle it out there all wet and willy. He's swimming around, getting all salivating. And when he leaps out of the water, I'll grab it, and I'll harpoon it right to hell and God!
I think you're gonna need a bigger dick. Bon, ok. Avec la règle numéro 34 d'Internet, je sais très bien que toute œuvre cinématographique a quelque part son pendant pornographique. Mais franchement, est-ce qu'il y avait besoin d'une version cul des Dents de la Mer? Ne répondez pas, ça sert à rien. Vous connaissez déjà la réponse. Bien sûr que oui! Alors, prêt à vous embarquer pour XXX This and Joe's The Porn Parody. Et oui, comme son nom l'indique, c'est bien les Dents de la Mer, mais en plus avec des scènes de huc. En fait, c'est même d'une assez grande fidélité, reprenant la construction de l'original quasiment scène par scène, en y incluant simplement des moments explicites. La blonde qui se fait croquer au début des Dents de la Mer, bah, elle a eu le temps d'aller batifoler sur la plage avec son copain. Le chef Brody fait fermer la plage, les baigneuses trouvent le réconfort dans les bras de beaux maîtres nageurs, et quand la mairesse de la ville commence à s'inquiéter des conséquences financières de la fermeture touristique, eh bien c'est la biologiste Marine Hooper qui s'emploie à lui remonter le moral directement sur le bureau.
Closing the beaches will ruin this town.
Mayor, do you realize what not closing the beaches will do?
Sharks are perfect swimming eating machines, and this one has staked a claim on these waters. Putting people in the water is a virtual guarantee that they'll end up as fish shit.
So what are we supposed to do?
Actually, Mayor Vaughn, there's one thing that we can do. You need a professional.
Well, I've thought about that before, but with the cost and everything...
It won't be a fraction of what this town will lose if all the summer tourists end up as fish food.
I guess you're right.
I am. And I have the best man for the job.
What is that saying again?
Sometimes the best man is a woman.
Parce que porno hétéro oblige, un certain nombre de personnages ont dû être féminisés, comme celui qui était incarné par Richard Dreyfuss. Et là, les virilistes qui viennent chouiner parce qu'on a fait des Ghostbusters filles, des Jedi super puissantes dans les nouveaux Star Wars, là on les entend pas là, hein. Quand il y a des vrais combats à mener, quand on tue les films de notre enfance avec des gonzesses à poil, là il y a plus personne. Enfin bon, vous l'aurez compris, cette version des Dents de la Mer reste totalement dans les clous scénaristiques du chef-d'œuvre de Spielberg. Et c'est même un peu là son principal problème. Parce qu'une fois la surprise du concept passée, bah c'est pas terrible. Des acteurs porno qui rejouent en moins bien les scènes du film original, puis qui baissent. Et puis du porno à la papa, hein. Pas d'anal, pas de fantasme particulier, pas de requin partouzeur qui viendrait prouver qu'il peut faire plein de choses rigolos avec sa grande gueule. Non, un produit bien propre et mainstream avec des acteurs bodybuildés, tatoués et des pin-up épilés aux nichons gonflés à l'hélium. C'est pas que ce soit particulièrement mauvais, c'est juste sans surprise. Niveau d'acting, c'est le club théâtre de votre lycée qui vient rejouer les Dents de la Mer. Autant dire le genre de truc qui se regarde distraitement d'une main. D'un œil. Enfin si, il y a le dernier quart d'heure, une fois que nos héros sont partis en mer pour traquer le requin. Là, ils sachent un peu plus, ils nous refont parfois à l'identique les scènes où ils comparent les morsures de requin, où ils se saoulent et ils chantent. Et puis surtout, ils nous refont toute l'attaque de requin finale, avec le proto-queen qui se fait bouffer.
Hey guys, come here, look! It's right here! Come on, look! Right there, look!
Hoopa, get your dogs! Chief, hand me the harpoon gun! Hoopa, get your dogs! Chief!
Alors financièrement, c'est pas super brillant. Ils ont quand même dégainé le squal en image de synthèse tout pourri. Enfin, tout pourri. Quand même meilleur que dans un paquet de production à petit budget du genre Jurassic Shark de Brett Kelly ou Sharkenstein de Mark Polonia. Hein. Puis il y a le bateau, c'est une maquette à contre-jour sur des textures numériques d'océan. Et puis quand ils sont dessus, bah, les gros plans, on voit bien que c'est quand même un petit décor reconstitué avec trois cagettes. C'est pas honteux, mais c'est pas génial. D'abord parce que les gens savent exactement ce qu'ils viennent voir, hein, un porno. Et que les gens qui le font, bah, ils savent exactement ce que les gens viennent voir. Un porno. Et si en plus on peut rigoler en rajoutant un petit peu des Dents de la Mer, le petit plus qui pourra peut-être faire la différence, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Alors, faut dire aussi que le produit est super calibré. C'est une production Hustler, et là on est plutôt dans le hard haut de gamme, le genre qu'on peut laisser traîner dans sa DVD tech sans passer pour un pervers auprès de sa belle famille. Oui, je sais, le monde a bien changé. C'est le réalisateur maison qui s'y colle, Stuart Canterbury. Scénariste et cinéaste chevronné, hein, 230 films dans la besace quand même, avec dans les années 2010 un goût immodéré pour les parodies porno commençant par Triple X, The Saint, The Saint Conan de Barbare, The Saint The Bachelor, The Saint Curb Your Enthusiasm, The Saint Fox News, The Porn Parody. Bon, vous comprenez le concept, hein, on reprend de vague sosie des originaux, on prend l'éthique de mise en scène, et voilà un petit boulard qui va se vendre tout seul. De Wood Rocket à Hustler, il y en a des centaines. Qui reprennent tout, mais alors tout. Vous avez les pornos des Simpsons, vous avez les pornos des pierres à feu, vous avez les pornos des Schtroumpfs. Faut être pervers quand même. Bon, les Dents de la Mer porno, voilà, ça s'intègre pas trop mal. D'autant que pour la petite histoire, dans le livre original de Benchley, il y avait carrément une scène explicite entre Ellen Brody et Hooper. Ça n'a pas été repris dans le film, curieusement. Le film est fait un peu vite, avec des raccords scène extérieure, scène intérieure complètement moche, et puis des problèmes de son, des problèmes de lumière. Pas top. La musique originale est un rip-off synthé dégueulasse d'un certain Mr. Bone, spécialisé dans les musiques de films porno à bas prix, mais curieusement ils ont intégré un certain nombre de musiques d'ambiance de très bonne qualité. J'ai même cru au départ que ça pouvait être du John Williams, mais j'ai pas réussi à reconnaître ce que c'est, et là c'est vite noyé dans la médiocrité de l'ensemble, c'est un petit peu dommage. Mais j'aurais bien voulu savoir où ils ont pêché ces musiques quand même. Sinon, sachez que pour la petite histoire, ce film n'est pas la première version porno des Dents de la Mer. Dès 1976, le film Gums, de Robert Kaplan, imagine une sirène attaquant les nageurs d'une petite ville américaine pour les sucer à mort. Un film qui est très très con et assez drôle, mais que je ne pourrais pas développer ici. Bah oui, mais il n'y a pas de requin. C'est une sirène. Pas de mauvaise volonté, hein, c'est une éditoriale. Non, parce que dans le même genre, j'ai aussi en réserve Dick Shark, avec une tub en forme de requin. Ouais, ben vous emballez pas trop vite, hein, c'est violemment nul, je préfère vous prévenir. Si vous voulez en savoir plus sur ce Gums en question, eh bien je vous mettrai une petite vidéo YouTube de Cinéma Snob, en anglais hélas, pour vous faire une idée. Dernier détail, si vous voulez vraiment vivre l'expérience The Saint George's Porn Parody à fond, sachez qu'il existe une version 3D.
En matière d'immersion au cœur de l'action, on ne se refuse pas. Alors, voyons les compétences squalographiques de This and Joe, The Porn Parody. Originalité, non acquis. Alors, je veux bien que ça peut faire original au début de vouloir parodier les Dents de la Mer, mais là, c'est copie carbone, avec juste des scènes de galipettes en plus. Si on le compare justement à Gums, l'autre parodie porno de 76, celle-ci se permet beaucoup plus de fantaisie, et donc est beaucoup plus regardable et originale. L'histoire, elle, elle est insuffisamment acquise. Une fois qu'on a intégré que ce serait le remake plan par plan de l'original, eh ben on rejoue les scènes une par une. L'ambiance est en cours d'acquisition. Alors là encore, faut différencier les scènes de sexe, qui sont quand même la raison essentielle du film, et qui sont plutôt bien troussées, c'est le cas de le dire. Pour le reste, si on aime les Dents de la Mer, on va se prendre au jeu, Canterbury aime bien le film original, et tente au mieux de le respecter. Personnage insuffisamment acquis, bon, ça joue pas très très bien. Les actrices notamment n'ont pas été recrutées à la Comédie Française, hein, notamment pour des scènes de dialogue. Mention spéciale quand même à Evanstone, en Capitaine Queen. C'est un peu le Jim Carrey du hard, il est à la fois un vrai performeur dans les scènes chaudes, et il a une gueule et une nature d'acteur de série B à l'ancienne, qui prend un vif plaisir à en faire des caisses en pêcheur bourru. Je serais plus sévère avec la réalisation, non acquis. Canterbury sait certes filmer ses scènes, mais tout le reste est assez médiocre d'un point de vue technique. Les raccords foireux, les lumières, et particulièrement la musique qui couvre vraiment les dialogues dans certaines scènes. C'est bien simple, on se croit sur mon podcast. Requin insuffisamment acquis. Il est pas bien beau, mais au moins, il le montre. Et comme ils refont à la fin la scène où il bouffe Queen notamment, c'est déjà assez rigolo. Ce qui nous fait un total de 5 points. C'est nul, puis c'est largement suffisant, je vais rien rajouter. C'est un boulard, finalement assez professionnellement tourné, qui va contenter ceux qui sont venus pour voir du cul. Mais pour l'amateur de requin, en dehors de la fin, c'est quand même un spectacle de patronage, bien peu excitant, et un produit commercial qui globalement manque d'âme. Mais... vous le savez,
j'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre.
Eh bien voilà, il est temps de retourner à notre boîte à requins et de voir quels seront les films que nous allons traiter la fois prochaine. Alors, eh ben oui, Sharknado The Second One, le deuxième opus de la saga, 2014, Antonis et Ferrante. Il y en a 6, on en a déjà fait 2, le premier et le sixième, fatalement, fallait continuer. Donc le 2. Bye, ça va aller mieux pour la suite. Ah ah, un sérieux candidat. Open Waters, en eau profonde, de Chris Kentis, 2004. On va être dans une toute autre gamme que Sharknado 2. Voilà, alors, quelques recommandations vite fait. Oui, je suis au courant, Tommy Wiseau va faire un film de requin. Big Shark. Je vous mets la bande-annonce pour vous fassiez une idée. Je suis pas plus enthousiasmé que ça. Tommy sait maintenant pourquoi son public vient le voir, et quand on entend les effets de sound design, quand on voit le jeu des comédiens, on se dit qu'il va probablement encore jouer sur le nanar volontaire et sur l'effet de connivence suite au film de James Franco. Sinon, si vous préférez le cinéma de qualité, je ne saurais trop vous conseiller le Ciné-Club de Monsieur Bobine, une chaîne YouTube qui fait des analyses de fond passionnantes, notamment sur Alfonso Cuarón, sur la saga Mission Impossible ou sur le rajeunissement numérique ces derniers temps. Je ne désespère pas qu'il nous fasse une émission spéciale requin. En tout cas, tous les vendredis, c'est de la qualité. Et ça fait partie franchement de ce qui se fait de mieux en termes de cinéphilie à l'heure actuelle sur YouTube. Sinon, où se retrouver? Eh bien, comme d'habitude, les podcasts Nanarland qui ont repris sur Twitter, @ultimetrico. Bon, il va peut-être falloir quand même que je mette le podcast sur Spotify ou Deezer. Hein. Surtout Deezer, j'ai un compte en plus, c'est vous dire si je suis une tanche pour le référencement. Mais bon, on se refera plus. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner. Qu'est-ce qu'on a là, hein? Shotgun Wild Volume 3. Bonjour toi. Mais non, l'émission est terminée.